Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur SILAB pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. Cette semaine, on est en compagnie de Sushi, Abriel et Cyclo de l'association Wookie Wookie, une association de jeux vidéo de rythme, et ça tombe bien parce que pile sur le planning, on avait prévu pile cette semaine de parler de jeux vidéo de rythme. Les choses sont bien faites. Sushi, Abriel et Cyclo, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et on est comme d'habitude avec l'équipe habituelle de Super Radio 64, Milan.
Yes, c'est moi.
Qu'on essaiera d'écouter un peu aujourd'hui.
Allez, ça le fait.
Et également Pierre.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
Et justement, pour commencer, je vais donner la parole à cette équipe-là. Pour vous, Milan et Pierre, qu'est-ce qui définit le jeu vidéo de rythme?
Je t'en prie, Milan, vas-y, passe
ouais,
en premier.
De toute façon, il m'a cité en premier. Hein. Pour moi, un jeu de rythme, j'aurais tendance à penser que, en général, c'est un jeu où il faut appuyer sur un bouton, une touche ou faire un mouvement sur un rythme qui correspond le plus souvent à de la musique, mais ça peut être un signal autre que sonore qui est donné, quoi. J'ai pas grand-chose d'autre à dire.
Ok. Pierre ?
Ça se rejoint un peu avec Milan, mais j'ai des questions que je vous poserai plus tard éventuellement par rapport à la définition même de jeu de rythme. Voilà, donc c'est pour moi un jeu où on doit appuyer touche ou des couleurs ou des choses en rythme avec un signal visuel ou sonore.
Du coup, Sushi, Abriel et Cyclo, qu'est-ce que vous pensez de cette... une réaction sur ces définitions-là?
Alors, c'est plutôt pas mal comme définition. On a tendance à confondre jeu musical et jeu de rythme et à les associer un peu trop facilement. C'est-à-dire que le jeu de rythme va vraiment se baser sur un rythme. Il y a une action qui va être vraiment rythmée sur la musique, d'où le terme jeu de rythme. Alors qu'il y a aussi la différence avec les jeux musicaux, où c'est très général, où ça peut être un jeu qui est basé sur la musique. Je peux donner un exemple assez simple. Par exemple, il y a un jeu qui est assez connu sur PC qui s'appelle Audio Surf. Audio Surf, un jeu où on doit récupérer des petites boulettes pour faire des combos et assembler des couleurs, etc. Mais ce n'est pas un jeu de rythme, parce que les actions, justement, les actions que l'on doit faire ne sont pas régies par le rythme de la musique ou le rythme de ce qui apparaît à l'écran. On doit se positionner pour récupérer des boulettes qui, elles, sont en rythme, mais nos actions ne sont pas dictées par le rythme. Du coup, effectivement, un jeu musical devient un jeu de rythme à partir du moment où les actions que l'on fait sont vraiment dictées par le rythme. Si on n'est pas sur le rythme, ça marche pas.
Truc à ajouter ?
Pour rebondir là-dessus... souvent les jeux, il nous faut un score, il nous faut des objectifs, et le jeu de rythme, comme l'a défini Sushi, c'est les actions vont être dictées par le rythme, et donc on va avoir un meilleur score, mieux on est en rythme avec la musique, en fait.
Alors ça, c'est ce qu'on considère pour nous les jeux de rythme qui sont justement basés sur la précision. Il existe aussi des jeux de rythme où la précision n'est pas temps est récompensé. Par exemple, un exemple, c'est par exemple Guitar Hero. Guitar Hero, il faut ce qui est récompensé, c'est surtout les séries consécutives, ne pas faire d'erreur. Mais la précision, que si on tape un peu avant, un peu après, ça va pas être pénalisant. Même si c'est recommandé de taper évidemment bien en rythme pour être bien dans la musique et bien avoir les meilleures sensations.
Guitar Hero, ça reste un jeu de rythme quand même.
Ah oui, ouais. Clairement.
C'est un jeu de rythme. Ouais.
Cyclo ?
Non, ils ont assez bien résumé la chose. Juste pour revenir sur Guitar Hero, etc. Très souvent, ce sont les jeux vidéo de rythme occidentaux qui n'ont pas vraiment cette notion de précision quand vraiment on demande vraiment d'être en rythme avec la musique. Sur Guitar Hero, sur Rock Band, on peut être un petit peu à la ramasse, ça passe, il n'y a pas de problème. On ne sera pas jugé moins bien ou mieux en fonction de... Soit on tape la note, soit on la rate. Alors que très souvent, dans les jeux vidéo de rythme japonais, qui sont très souvent basés sur des jeux d'arcade, on a des distinctions si on est vraiment en synchro parfaite avec la musique, ou si on est un peu en avance, un peu en retard, on en sera informé et du coup on aura des points en moins à cause de ça.
Justement, par rapport aux jeux vidéo japonais, est-ce que le jeu de rythme tient son origine, justement, ça, est-ce que ça vient du Japon de base ?
C'est une très bonne question. J'ai jamais vraiment regardé qui était la genèse des jeux de rythme, même s'il y en a certains qui datent d'il y a un certain temps, comme par exemple Beatmania qui était de 97, si je me rappelle bien.
C'est vrai.
Mais j'ai jamais regardé exactement qui était le tout premier jeu de rythme. À mon avis, il y a dû y avoir des jeux de rythme sur de 13 à 7 consoles. Même déjà, quoique peut-être sur Game Boy, sur SNES, etc. Mais c'est difficile à dire. Il y a de grandes chances que ce soit japonais à la base. Mais ce n'est pas sûr.
En tout cas, ce qu'on peut rajouter, c'est que l'un des premiers jeux de rythme qui s'est imposé dans l'Occident étant Guitar Hero est à la base très largement inspiré d'une série de jeux japonais qui s'appelle Guitar Freaks et qui a sensiblement le même concept mais qui prédate Guitar Hero.
Parce que c'est justement quand on voit les jeux vidéo que vous proposez de jouer à Wookie Wookie justement, on y reviendra à la fin sur ce que vous proposez, c'est des jeux japonais, on se dit ça vient du Japon forcément, du coup on aurait peut-être tendance justement à penser tous les trucs majoritairement de ce type-là ont été faits au Japon.
Alors oui, il y a en très grande partie des jeux de rythme japonais, même s'il en existe, comme on disait, des occidentaux. Il y en a des coréens, par exemple Pump It Up, qui est un peu la version de Dance Dance Revolution, mais en Corée, qui a vraiment un gameplay différent d'ailleurs. Mais en vrai, il existe des jeux musicaux d'un peu partout. Enfin, des jeux de rythme d'un peu partout.
On peut dire que en fait c'est surtout des jeux japonais parce que le public japonais a vraiment rebondi sur ce concept de jeu de rythme et les Japonais sont vraiment des fanas de jeux de baston et de jeux de rythme parce que le concept de salle d'arcade ils sont vraiment inspirés par ça. Quand on pense au Japon, on pense les salles d'arcade à Okinawa.
Elles sont toujours très populaires là-bas alors que dans l'Occident c'est c'est très très compliqué encore de trouver, et encore plus en Europe qu'aux États-Unis, de trouver des salles d'arcade aujourd'hui.
Justement, vous dites qu'il y a beaucoup de jeux de rythme différents. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement les uns des autres ?
Alors, comment dire ? Il y a beaucoup. La grande différence pour les jeux de rythme va venir sur certains points. Il va y avoir la playlist, donc les musiques qui sont jouées. Souvent, elles peuvent vraiment complètement varier en fonction du thème du jeu musical, enfin du jeu de rythme. Il va y avoir le gameplay, enfin la présentation plutôt du gameplay, donc soit des notes qui défilent verticalement, horizontalement, des notes qui arrivent sur des carrés, des notes qui arrivent partout sur l'écran et qui correspondent à une touche. Et en parlant de touches, le contrôleur. Le contrôleur fait vraiment la ville, c'est vraiment le cœur du jeu de rythme, car ça va vraiment demander des manières de jouer complètement différentes. Même si on avait le même type de défilement, par exemple à l'écran, mais le simple fait de changer le contrôleur change tout. Par exemple, un exemple par rapport à ça, il y a deux jeux musicaux qui ont des défilements assez similaires, comme Beatmania 2DX et Pop & Music. Beatmania 2DX étant un jeu avec 7 touches et une platine, avec un défilement vertical du haut vers le bas, où on doit appuyer sur les touches en rythme, et pareil pour la platine, il faut donner un coup de platine en rythme. Et Pop & Music, qui lui est un jeu où il y a 9 énormes boutons qui sont en quinconce, et mêle pas des temps énormes, il y a vraiment de grands déplacements de bras, où là, par exemple, au lieu de jouer avec le bout des doigts, on va être en train de jouer avec plutôt la paume des mains, le bout des doigts et le bout des mains, et faire des grands déplacements, faire écarter les mains, voilà.
Utiliser les coudes, des fois.
La grande légende où on utilise les pieds sur le pad.
Justement, j'avais moi-même dans ma tête, je vais faire un mea culpa. L'année dernière, vous étiez à la nuit du jeu vidéo. Il y avait l'association Wookie Wookie à la nuit du jeu vidéo, du coup, qui proposait plusieurs jeux de rythme de ce type-là. Et on avait fait une émission, on avait fait un reportage là-bas et ensuite un débrief. Et on avait parlé il y avait un segment justement sur les jeux de rythme et j'avais dit ceci.
Tous les jeux où il suffit juste d'appuyer sur une touche qu'on t'indique, c'est pas des bons jeux de rythme d'après moi.
Mais qu'est-ce qu'un bon jeu de rythme alors ?
Rhythm Paradise.
Parce qu'en fait, je me disais bêtement, limite on peut couper le son et puis jouer sans, c'est difficile mais c'est possible. Du coup, il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Du coup, qu'est-ce que vous auriez à répondre à quelqu'un qui pensait comme ça il y a un an ?
Moi, j'ai à propos de ça, j'ai une réponse assez simple, c'est que sur pas mal de jeux de rythme, si tu coupes le son, même si tu joues avec le son, si tu ne tapes pas les notes, tu ne fais pas la musique, parce que quand tu dans beaucoup de jeux de rythme, tu complètes en fait la musique de fond avec avec ce que tu fais sur le pad. Donc de toute façon, il est nécessaire d'entendre la musique, non seulement pour pouvoir être en rythme, mais pour surtout compléter la musique.
Et puis il y a autre chose. Sur beaucoup de jeux, le plaisir en fait des jeux bisco vient justement du fait de comprendre ce que l'on fait par rapport à la musique. Ça donne vraiment la sensation de jouer la musique, d'apprécier encore plus une musique que tu entendrais plutôt que de juste écouter la musique. C'est le vrai plaisir en fait.
Du coup, depuis, j'ai essayé un peu plus en profondeur et j'ai changé d'avis sur la question. Je me dis oui, c'est vrai que c'est quand même très kiffant quoi. Vous parliez des playlists juste avant. Justement, dans chaque jeux différents, il y a des dizaines voire des centaines de jeux pour Dance Revolution par exemple, des centaines de jeux de musique différentes. Comment est-ce que ça marche tout ça? Est-ce que c'est une version d'un jeu qui ressort tous les ans avec une mise à jour un peu du type FIFA ou Just Dance?
Alors pour les jeux sur arcade, chaque année, enfin à chaque version, parce que justement pour DDR ça, on a combien de versions?
Ça fait à peu près 4 ans qu'ils n'ont pas. Bah, si on compte le dernier DDR A20, on peut dire que c'est une nouvelle version.
Ah mais... oui, c'est complètement une nouvelle version vu les musiques.
Donc ça va, ça date de l'année dernière.
Ça date de l'année dernière et là on est à la 20e version, un truc comme ça.
Si l'on nommait A20, c'est que je pense que c'est à peu près ça.
Il
ouais.
y a des chances. Et du coup, chaque année, en fait, à chaque version, il y a des nouvelles musiques. Mais la plupart des musiques des anciennes versions sont conservées. Après. L'arcade au Japon étant beaucoup plus développé que l'arcade auquel on pourrait penser en Europe, par exemple, où en Europe on vient, on met sa pièce, on fait une partie et c'est terminé. Au Japon, il y a l'arcade, c'est vraiment l'équivalent de sa console chez soi. C'est-à-dire qu'on va avoir son compte, on va la borne est connectée, et du coup il y a des chansons à débloquer, il y a de la progression, et du coup tout au long de la vie de la version, des nouvelles chansons sortent. Il y a des updates avec des nouvelles chansons à débloquer. Du coup, les gens reviennent pour rejouer plus. Et du coup, il y a plein de chansons qui sont débloquées, débloquables, qui peuvent prendre du temps parce que certaines chansons mettent beaucoup de... Enfin, il faut très bien jouer pour pouvoir les débloquer. Et c'est le cycle de vie, voilà. Une fois que tout est débloqué, que quelqu'un a tout débloqué, voilà, il joue ses chansons, il peut progresser dessus, et voilà. Et à chaque... Comme ça, c'est le business plan, je crois, pour la plupart des bornes, c'est que chaque version, des nouvelles chansons, des unlockables, et avec des défis, des mini-jeux en plus, etc. Avec tout le temps des thèmes, des thématiques différentes, des visuels différents, parfois des fonctionnalités complètement nouvelles.
Du coup, c'est un modèle qui est pensé justement spécifiquement pour le Japon, parce que ces bornes-là, on les retrouve pas en Europe ou en France.
C'est très très rare de retrouver des bornes telles qu'elles sont au Japon en Europe. Spécifiquement les arcades récentes, c'est vraiment introuvable en Europe. On en trouve quelques-unes aux États-Unis. Il y a un groupe de salles d'arcade qui s'appelle Round One, qui porte beaucoup de jeux d'arcade japonais récents aux États-Unis, mais en Europe on n'a pas cette chance. Du coup c'est très très rare de pouvoir trouver une arcade, ne serait-ce qu'une arcade connectée en Europe, c'est très rare.
C'est pour ça justement en fait on n'a pas les serveurs avec les bases de données, nos idées et donc nos cartes qui permettent de se connecter à la borne. Justement en Europe on n'a pas ça, et donc on n'a pas de borne, on n'a pas ça, donc, et on n'a pas de borne parce qu'on n'a pas ça, et on n'a pas ça parce qu'on n'a pas de borne, et enfin, finalement, ça s'éteint un peu en Europe, quoi.
C'est ça. Je crois que par rapport à ces bornes-là, il y a seulement... on connaît surtout pour les jeux musicaux, justement pour les jeux de rythme, on connaît surtout toutes les bornes de Konami, du coup les bornes Bimani, c'est la section jeux musicaux de Konami, où là, justement, pour les salles d'arcade, il faut un abonnement, il faut avoir toute l'infrastructure, et il faut que Konami autorise la salle d'arcade a possédé la borne et la faire tourner. Et je crois que dans certaines salles d'arcade, je crois que c'était en Finlande, où il y avait, je crois, des bornes de Sega, genre Mai Mai ou comme ça, où là, ça commence à apparaître, mais du coup, c'est quand même extrêmement rare.
Pierre, je te laisse la parole.
Magnifique, c'est donc à moi de vous passer sur le grill. Et du coup, on va commencer avec des questions, on va faire passer chacun après l'autre. qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire du jeu de rythme ?
Alors moi, déjà, je viens d'une famille qui a été bercée par la musique. Je viens de Guadeloupe et la musique traditionnelle était ancrée dans la famille. Et j'aimais beaucoup les jeux vidéo, évidemment. Et j'étais beaucoup derrière l'ordinateur quand j'étais gamin. Et un jour, je voyais défiler les jeux Guitar Hero, trucs machin, mais je n'avais pas la possibilité de les acheter. Et un jour, j'ai découvert Fretz on Fire, un très ancien simulateur de Guitar Hero où on pouvait prendre son clavier et jouer avec, vraiment le prendre en main et jouer comme si on jouait à Guitar Hero, mais avec son clavier, les touches F1, de F1 à F5.
Incroyable.
Pour faire les touches, c'était génial. J'ai passé un super moment, c'était vraiment trop bien. Et par la suite, j'ai découvert plein d'autres jeux.
Alors, en ce qui me concerne, je me souviens du moment précis où je suis devenu fan de jeux de rythme. C'était dans le Micromania Centre Columbia. Ouf. On pouvait jouer à Donkey Konga. C'était la sortie de Donkey Konga à l'époque. Alors, je me souviens plus en quelle année, mais je me souviens que j'étais avec mon frère. On a un petit peu pris le stand d'assaut. Et on a adoré, on a chopé le jeu quelques jours plus tard, et depuis je passe de jeu de rythme en jeu de rythme, hein, et je m'éclate.
Donkey Konga, qui est un jeu de rythme Donkey Kong, avec la particularité d'avoir des bongos en tant que manette.
Voilà, exactement, le jeu est vendu avec deux bongos pour faire toutes les notes, et c'est super sympa. C'était ma première expérience à un vrai jeu de rythme. Et donc du coup c'est grâce à ça que je suis devenu fan.
Pour ma part, en fait, c'est quand j'étais en deuxième année de classe préparatoire, il y a un pote qui m'a dit bah en fait, je joue à ce jeu, je m'amuse. Bon, c'est un jeu sur PC qui s'appelle OS. Oh. Et on en parlera peut-être après. Mais donc j'ai fait mes débuts sur ce jeu-là et j'ai trouvé ça dur au début, et après j'ai commencé à jouer vraiment beaucoup, et ça m'a pris au plaisir de d'avoir des super, enfin des musiques super cool, etc. Bon, on va parler des droits d'auteur après peut-être. d'avoir des super playlists, de découvrir plein de musiques sur plein d'univers, etc. Et en fait, à un moment, bah il y a eu une convention en 2017, le NBF Festival à l'université de Rennes 1, et il y avait justement l'association WikiWiki qui tenait un stand, et là gros coup de foudre avec Soundvoltex, et je suis entré dans l'asso les semaines qui suivaient, quoi. Et après, bah, ça continue.
C'est une belle histoire. Alors, est-ce que pour des néophytes, parce que personnellement, ma seule expérience de jeu de rythme, ça doit être Guitar Hero sur DS. Est-ce que vous auriez des jeux à conseiller pour les nouveaux dans ce milieu-là ?
Alors moi, le jeu que je conseillerais, que nous on propose... Ça tombe bien parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué qui faisait partie des jeux qu'on propose dans l'asso. C'est un jeu qui s'appelle Taiko no Tatsujin. C'est une série qui s'appelle Taiko no Tatsujin. Et avant, c'était peut-être un petit peu plus difficile de jouer à cette série parce que c'était des jeux qui étaient au Japon uniquement. C'est une série qui est sur arcade et sur console, mais dont les jeux ne sortaient uniquement qu'au Japon. C'est une époque qui est révolue aujourd'hui avec la sortie du jeu sur PS4 et sur Switch. Donc c'est accessible à sur n'importe quelle console récente. Et c'est un jeu qui a un concept très simple où on a un tambour, et le centre du tambour et les côtés du tambour font deux sons différents. Et donc on a deux notes différentes qui sont codés par une couleur dans le jeu. Et donc c'est un jeu qui est très ludique, qui marche beaucoup beaucoup en convention, et c'est très très facile à prendre en main, c'est très intuitif, et il y a moyen au fur et à mesure qu'on y joue de devenir très très bon et de faire des chansons très très dures.
D'accord.
C'est aussi un jeu super joyeux d'ailleurs.
Tout à fait,
avec les taïkos qui sourient tout le temps.
C'est ça. Mais sinon...
Vas-y, je t'en prie, continue.
Pour d'autres jeux, pour les néophytes, par exemple pour la découverte, je recommande la série des Rhythm Paradise, qui est vraiment, vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi aussi, lorsque je les ai découverts, où c'était vraiment juste la base du rythme, expliquée sous forme de mini-jeu, pour quand on n'a vraiment pas du tout le rythme dans la peau, ça peut être compliqué au début. Mais au fur et à mesure, on s'amuse, on progresse. Le jeu est un vrai challenge pour vraiment le faire à 100%, par exemple. Mais ça reste extrêmement ludique, extrêmement accessible, extrêmement coloré, extrêmement joyeux, extrêmement fun, avec des petites blagues et des petits fils rouges dans le jeu qui mettent toujours le sourire.
Je suis totalement d'accord, c'est ma série de jeux vidéo préférée, moi.
On te voyait sourire dans la régie.
Ah bah oui.
Bah, je t'ai vu surtout me lancer un regard, Milan. Et Abriel ?
Des jeux à conseiller. Des jeux qui sont peut-être un petit peu difficiles d'accès au début. Personnellement, je vais conseiller mon jeu de cœur, hein, Sandvoltex, qui est difficile à prendre en main peut-être au début pour progresser, mais une fois qu'on est dedans, c'est tellement... Enfin, je trouve que le gameplay est très satisfaisant et ça devient vraiment amusant plus on joue. Après bon, peut-être qu'à partir d'un moment ça veut plus rien dire tellement ça va vite, mais bon, ça c'est un autre débat encore.
Il y a le problème de la difficulté. Chaque jeu a des niveaux de difficulté qui sont adaptable en fonction de son niveau. Comment ça fonctionne? Comment ça s'adapte justement? Comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Comment on sait quel est notre niveau?
L'idée c'est de tenter des musiques et de regarder si on voit que par exemple sur Sandvoltex il y a 20 niveaux de difficulté, on tente, on commence par une 2 ou une 3 et après si on voit que c'est trop facile et on va aller vers du plus difficile tout en adaptant le gameplay au fur et à mesure. Donc par exemple sur beaucoup de jeux de rythme, enfin sur tous les jeux de rythme en fait, c'est possible en fait mettre un spin mode. Donc c'est-à-dire qu'on va changer la manière dont les notes défilent à l'écran pour pouvoir plus facilement lire ce qu'on voit à l'écran et justement avoir un gameplay qui devient plus adapté à notre façon de réagir au jeu de rythme en fait.
Et du coup à ce niveau justement niveau abordabilité, est-ce que vous pensez qu'il y a un jeu qui est plus facile qu'un autre pour commencer, parce que Sushi a pu le voir il y a quelques semaines, je sais pas si tu te souviens, mais moi je suis par exemple pas très doué, j'ai pas le rythme dans la peau, on peut le dire.
Définitivement ce que Sushi a recommandé avec Rhythm Paradise, c'est vraiment le jeu que je recommanderais à un néophyte qui n'a jamais touché un jeu de rythme, parce que ça va vraiment poser les bases et ça va être des rythmes très simples.
Okay. Et il y a surtout le truc de Rhythm Paradise aussi, on nous pénalise pas instantanément en fait, on nous fait pas arrêter la musique quand on se trompe trop, on nous fait à chaque fois aller jusqu'à la fin de la musique et après on nous dit si c'était bien ou si c'était pas suffisant. Ça peut donner justement envie de s'améliorer plus facilement que juste Os justement, on nous arrête la musique si on se trompe. Voilà. On parlera peut-être de Os juste après.
Et pour conclure sur la série des Rhythm Paradise, c'est aussi très bon pour les néophytes parce que c'est une série de jeux qui est très facile à acheter. Il n'y a pas besoin d'un pad spécifique, d'un contrôleur spécifique. Ça se joue avec le pad de base. Donc c'est si on n'a pas envie de forcément acheter le pad et de du coup dépenser plus, on peut au moins commencer avec ça. C'est vraiment une porte d'entrée sur tout le reste.
Et parce qu'il faut savoir que la chose difficile pour accéder au jeu de rythme, c'est avoir un pad. Un pad, ça coûte vraiment cher parce qu'en fait, l'idée, si on veut jouer à Sandvoltex par exemple, ou si on veut jouer à Beatmania 2DX, il faut avoir un pad. C'est pas adapté le clavier pour jouer à ça. Donc il faut s'acheter un pad ou alors il faut se construire un pad. Il y a plein de tutoriels qui existent, etc. Des gens qui codent ça sur des Arduino, ce genre de choses. Et pour avoir vraiment les sensations de l'arcade en fait.
D'accord.
Et justement, du coup, à ce niveau, c'est hyper pratique votre association parce que vous avez déjà du matériel.
Oui, c'est justement le but de l'association. Ouais. Ce qu'on veut essayer de proposer, ce n'est pas juste des jeux de rythme. Ce sont vraiment des jeux de rythme arcade. On veut apporter un plus par rapport à ce qu'on pourrait avoir chez soi. Parce qu'on pourrait, on pourrait proposer une flopée de jeux qui sont sortis sur Steam ou des jeux sur PS4, par exemple, qui se jouent à la manette. Mais ça n'apporterait pas de plus. Ce serait juste, bonjour, on vous fait jouer un jeu que vous pouvez avoir chez vous. Mais là, non, nous on veut proposer au moins le petit sel de l'expérience arcade.
Et du coup, vous avez un peu répondu à ma question dans le passage précédent, mais est-ce que dans le jeu de rythme, il y a de la rejouabilité ?
Clairement, il y a beaucoup de rejouabilité, justement, comme on le disait plus tôt. Il y a des centaines, je pense même des milliers maintenant, chansons dans les... dans les dernières versions. Et le truc, c'est qu'il y a toujours le petit côté compétitif où on veut améliorer son score. Pour moi, je dis toujours à tout le monde, quand on me demande quel est le but du jeu vidéo de rythme, c'est le développement personnel. Parce que on n'a pas un objectif, du genre je dois battre mon adversaire ou je dois finir le niveau. On doit finir le niveau, certes, mais après, par la suite, ce qu'on veut faire, c'est s'améliorer. Si on veut toujours aller plus loin, repousser ses limites, devenir meilleur. Et c'est toujours ça. Et après, niveau rejouabilité, il y a toujours plein de musiques différentes pour chaque niveau de difficulté. Du coup, c'est l'occasion de faire des découvertes musicales, des patterns qui n'ont rien à voir, des manières de jouer différentes. Du coup, oui, clairement, la rejouabilité est présente. Sinon, on s'amuserait pas à chacun de nos clubs d'idées.
Oui. D'accord. Et du coup, si je ne me trompe pas, à la dernière AGDQ, il y a eu un power play d'un jeu de rythme. Et donc, je voulais savoir, est-ce que, au final, est-ce que le power play sur les jeux de rythme, ça reste fun? Est-ce que on peut speedrunner un jeu de rythme?
Alors, on peut pas vraiment speedrunner un jeu de rythme parce qu'il n'y a pas de fin en soi. On peut faire exactement du power play, c'est-à-dire dire regardez, je suis fort. c'est vraiment le seul truc qu'on peut faire, c'est dire je suis très fort, je peux faire des niveaux que peu de personnes peuvent faire dans le monde. Et voilà, c'est du super play, c'est du power play.
Voilà. On a un exemple très simple sur DDR. Il y a plusieurs joueurs, mais un qui est particulièrement connu, qui s'appelle Chris for Life. Son but, c'est de faire le plus de charts avec le score parfait possible. Et il a des scores absolument impressionnants.
Mm-hmm. Juste du coup, DDR, c'est Dance Dance Revolution.
Oui.
Donc avec, il y a des flèches qui arrivent et on tape avec les pieds sur un tapis.
C'est vrai qu'on l'a pas introduit.
Ouais.
Il est tellement connu.
C'est ça.
Mais est-ce que du coup, par exemple DDR, est-ce qu'il est adaptable à l'e-sport? Est-ce que le jeu de rythme est adaptable à l'e-sport? Est-ce qu'on pourrait voir un ESL de Dunkerque avec Dance Dance Revolution?
Alors ça existe déjà, mais au Japon
vous
uniquement.
Vous refaites ma culture.
On pouvait s'en douter. Ça s'appelle le Konami Arcade Championship. Alors c'est seulement pour les jeux faits par Konami, donc il y a des tournois pour Beatmania 2DX, pour Dance Dance Revolution, Pop and Music... Sound Voltex. Ouais. Et il y en a eu d'autres par le passé, il y en aura sûrement de nouveaux dans le futur. Et donc chaque année, en fait, c'est un tournoi où c'est un tournoi international d'ailleurs qui est ouvert à l'Occident. Et donc chaque année, les meilleurs joueurs de chaque jeu se rencontrent et sont en compétition pour la première place.
D'accord. Et on a des représentants français dans cette compétition?
Non,
clairement pas.
Pour l'instant, l'ouverture occidentale se résume principalement aux États-Unis, malheureusement.
Oh.
Parce que c'est tellement dur de trouver, c'est tellement dur de pouvoir jouer à ce genre de jeu en Europe que forcément le niveau est beaucoup plus bas que dans les autres pays.
Et surtout,
on n'a pas l'infrastructure.
Et surtout, ils ne sont pas reconnus forcément par Konami puisqu'ils font des sélections dans les salles d'arcade qui sont reconnues. Il y a des puisque comme il y a tout le système de machines connectées, pour pouvoir entrer dans le tournoi, il y a une sélection de chansons où l'on doit faire un score dans un délai imparti. Mmh. Et les meilleurs qui ont fait les meilleurs scores seront choisis en tant que représentants et après ils iront au Japon pour faire la compétition. Et comme il n'y a pas de structure en Europe, il n'y a pas d'Européens.
Mais est-ce que vous pensez que dans le futur, l'Europe pourrait un peu s'ouvrir à ce genre de choses? Est-ce qu'on veut éventuellement le retour des salles d'arcade ou des choses comme ça?
C'est tout ce qu'on espère, hein. C'est que l'Europe rebénéficie de celles d'arcade, hein. Depuis des années, je supplie Round One de venir en Europe, mais je sais pas, peut-être que c'est un manque de player base, peut-être que il y a d'autres difficultés, il y a peut-être pas assez de public pour ça, je ne sais pas. C'est vraiment dommage.
Je pense vraiment que le problème vient du manque de public, justement, parce que une salle d'arcade reste quand même une entreprise, et pour tourner, il faut générer de l'argent. Ça se voit par rapport aux autres salles d'arcade qui avaient déjà ouvertes, qui étaient déjà ouvertes dans la France. Je pense par exemple à la Coulacou à Montpellier, Arcade Street à Paris par exemple, qui ont fermé parce que justement les revenus n'étaient pas suffisants. Et ce n'était même pas encore des salles d'arcade qui sont vraiment connectées. Du coup, il y avait quelques jeux qui étaient connectés, mais pas tous. Les jeux musicaux ne l'étaient pas, par exemple. C'était des setups offline. Et certaines salles étaient obligées d'avoir une double activité pour pouvoir survivre. Ah, donc, oui. C'était salle d'arcade et bar, salle d'arcade et karaoké, salle d'arcade et autre chose. Du coup, c'est le manque de joueurs, le manque de clients, en fait, fait que ce sera très 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 dur de percer là en Europe, enfin en France surtout. On voit plus apparaître tout ce qui est barcraft, bar e-sport, etc., qui sont en vogue. Mais pour les salles d'arcade, la mentalité de l'arcade en France reste et toujours encore sur la salle d'arcade où c'est juste je mets une pièce en allant au ciné parce que c'est pour attendre. C'est là tout le problème, à mon avis.
D'accord. Bon, ça, c'est un peu triste, mais bon.
Et juste, est-ce qu'il existe ou il a existé des salles d'arcade en France spécialisées dans des jeux de rythme ?
Non, je ne crois pas. Et en plus, en vrai, même au Japon, il n'y a pas de salle d'arcade dédiée aux jeux de rythme. Par contre, il y a des étages dédiés à des jeux de rythme. Alors, en général, au Japon, il y a des game centers, enfin, des gros game centers sont sur 6-7 étages. Mm. Avec les deux premiers étages, avec des crane machines, des polycoulas, des appareils photo, etc. Et après, il va y avoir l'étage de jeux de baston, l'étage de jeux musicaux, l'étage de jeux de cartes, l'étage de jeux de paris, etc.
C'est limite inconcevable, en fait. En France, on a du mal à s'imaginer des trucs de cette ampleur, en fait.
Clairement. Ouais. C'est vraiment une industrie qui est là depuis très longtemps au Japon. Parfois, dans une rue, il y a 3 grosses salles d'arcade dans une même portion de rue, même. Alors qu'en France, c'est plutôt une salle d'arcade par région, par si groupe de régions, si on a du bol.
Les nouvelles régions, c'est les bon, ça augmente le prorata, voilà. Ça.
Et du coup, est-ce que un jeu de rythme, on a pensé à Rocksmith, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Ouais.
C'est ça. Est-ce que Rocksmith peut être, par exemple, ou le jeu de rythme peut être un support à l'apprentissage ?
Oui, clairement. À part Rocksmith, il y en a d'autres, comme par exemple. Drum Mania and Guitar Fix, on a parlé de Guitar Fix un peu plus tôt.
Juste 2 secondes, juste Rocksmith, du coup, c'est un jeu où on branche une vraie guitare et le jeu nous fait faire des exercices de guitare pour de l'apprentissage, justement.
Du coup, Rocksmith, effectivement, c'est un jeu où on branche la guitare, etc., qui effectivement est là vraiment pour l'apprentissage par le jeu au final. Et il existe, comme je disais, il existe d'autres jeux qui sont là aussi pour ça. Enfin, sont plus ou moins là pour ça, de manière cachée. Et du coup, je pensais, comme je le disais un peu plus tôt, à Drum Mania et Guitar Fix, mais surtout la partie Drum Mania qui, en fait... Drum Mania et Guitar Fix est un jeu encore par Konami où il y a la partie avec la guitare basse et la batterie, comme Guitar Hero, justement, à partir de Guitar Hero World Tour. La partie batterie est vraiment sur une vraie batterie électronique. Il y a vraiment toutes les touches. Il y a 2 crashs, la slat Charlie, la caisse claire, la grosse caisse, les 3 ou 4 tomes, je ne me rappelle plus. Il y a 4 tomes. Les 4 tomes. Et à la fin, les musiques qui sont jouées, quand on les joue en mode expert, on joue vraiment la partition de batterie. Il y a des batteurs qui, quand on les voit, ils refont la même partition sur une vraie batterie. Et ça sonne exactement ce qu'il faut.
Et en plus de ça, moi je vais parler un petit peu plus du jeu de rythme dans sa globalité. Il y a énormément de jeux de rythme qui vont aider, pas nécessairement à jouer un instrument en particulier, mais à travailler sa coordination par exemple, ou sa justesse par rapport au rythme. Ça c'est des choses, moi en ce qui me concerne, je suis en train d'apprendre le piano, et je sais que les bases de jeux de rythme, ça m'aide déjà à savoir si je me décale par rapport au rythme, ou si ma coordination entre mes deux mains sont pas correctes.
D'accord. Alors, petite question totalement à part et qui n'est pas sur la fiche. Y a-t-il des jeux de rythme ou instrumental, comme les Rocksmith, qui sont sur des instruments un peu plus obscurs, est-ce qu'il n'y aurait pas le saxophone ou le trombone à coulisses ou des choses comme ça ?
Bon, y a un jeu où c'est carrément piano pratiquement entier. Il y a beaucoup de parodies qui existent, comme par exemple Cobel Hero. Mais ça, c'est vraiment une grosse parodie.
D'accord. Qui consiste en quoi, du coup ?
C'est un jeu avec une cloche, l'instrument, la cloche de, d'instrument de musique. Mais comme je disais, c'est une grosse parodie sur Internet, donc c'est pas un vrai jeu musical.
Okay. D'accord.
Mais pour les instruments obscurs, je ne crois pas, ou alors on ne connaît pas, en fait, tout simplement.
D'accord. Et donc là, ça va être la question, le point aide-moi, s'il te plaît, Gauthier.
Ouais, mais...
Sur ma fiche, j'ai un point Rhythm Paradise.
Ouais, ouais, ouais. Justement, parce que justement, parler de l'apprentissage du jeu, justement, on parlait de Rhythm Paradise juste avant. Rhythm Paradise, il y a ce truc-là d'apprendre des trucs plus ou moins complexes sur le rythme, sans forcément les, enfin, sans les nommer du tout, sans dire je suis en train de t'apprendre un truc. Et juste, en fait, ça appelait pas forcément... Juste, je voulais absolument le caler quelque part, mais vu qu'on a parlé plus tôt, voilà, mais justement, ce truc d'apprentissage du rythme grâce à Rhythm Paradise, je trouve ça vachement bien, quoi.
J'ai un exemple concret à propos, justement, de Rhythm Paradise. Celui sur DS a un mini-jeu qui s'appelle Lockstep, où, en fait, le jeu t'apprend à battre le rythme, puis ensuite à battre le rythme en contre-temps.
J'ai beaucoup de temps
ça,
à comprendre.
Si tu sais pas le faire avant de faire ce mini-jeu, le mini-jeu te l'apprend vraiment. Et moi, par exemple, je ne savais pas le faire. Et depuis, c'est resté. C'est pour ça que je me souviens de ce mini-jeu en particulier.
Petite question, Gauthier. Est-ce que c'est une émission sponsor ?
Mais non, mais je suis sponsorisé par Rhythm Paradise, moi, en tant qu'être humain.
Ah, mais oui, c'est ça.
On attend une suite avec impatience.
Bah oui, Megamix, c'était très cool, même s'il n'y avait pas tous les jeux. Bah, Milan, je te laisse la parole désormais.
Ah, ma foi, c'est enfin mon tour. Bah, du coup. Puisqu'on parlait sur le fait qu'Osu, il y a... Os, pardon. Je me suis lancé deux minutes, je suis pas resté. Du coup, puisqu'on parlait du fait qu'il n'y a pas de contrôleur vraiment, qu'on reste sur le clavier et que c'est assez frustrant et gênant, clavier-souris. Mais du coup, à ce niveau, qu'est-ce que ça fait d'avoir différents contrôleurs Qu'est-ce que ça apporte au final d'avoir autant de supports différents?
Ben, déjà, ça apporte une vraie identité à chaque jeu.
Ouais.
C'est... Je veux dire, on pourrait facilement... avec juste un clavier, par exemple, pour tous les jeux à défilement vertical, avec des notes qui vont descendre de haut en bas, la seule différence serait le nombre de touches. Et c'est à peu près tout, en fait.
Ouais.
Et, mais pour un jeu qui a les mêmes touches, au final, le jeu perd en identité. C'est juste un énième jeu avec de rythme lambda, où on appuie sur les touches et c'est tout. Alors qu'un contrôleur apporte une identité, une manière de jouer... même un son différent par rapport au bruit du contrôleur, entre guillemets.
Du fun.
Un fun différent, très clairement.
Et on peut aussi parler du fait que vraiment chaque jeu demande des compétences très différentes. Si on pourrait se dire que bah, si t'es très bon à un jeu de rythme, t'es bon à tous les jeux de rythme. C'est absolument pas le cas. Très souvent, tu vas avoir un jeu préféré ou deux jeux préférés peut-être, mais les autres vont être radicalement différents et tu vas pas pouvoir transposer ton talent à un jeu sur un autre. Si entre nous trois, on se décide de se faire un challenge et de voir qui a le meilleur score sur n'importe quelle chanson de n'importe quel jeu, ça va le résultat va complètement dépendre du jeu choisi.
C'est ça. Comme je disais un peu plus tôt, je donnais l'exemple avec Beatmania 2DX et Pop'n Music. Ce sont deux jeux avec des défilements verticaux. Il y en a un, du coup, c'est techniquement 8 touches et l'autre, c'est 9 touches. Et le contrôleur, la taille, la forme des boutons, l'emplacement des boutons change complètement la manière de jouer. Moi, par exemple, je sais que je suis pas très très bon à Beatmania 2DX, mais à Pop'n Music, par contre, je me débrouille beaucoup mieux.
Et moi, c'est l'inverse.
Voilà.
Et du coup, est-ce que vous avez des contrôleurs préférés, genre certains que vous trouvez plus pratiques, plus amusants, plus intéressants même ?
Alors, je pense qu'on a tous nos jeux de prédilection. En ce qui me concerne, bah, mon premier amour, c'était Takano Tatsujin. Après, c'est un exemple un petit peu spécial, parce que quand j'ai commencé à y jouer, Takano Tatsujin, c'était sur DS. Et en fait, c'était joué d'une manière un petit peu spéciale, parce que le jeu venait avec deux stylets, et il fallait taper sur l'écran tactile avec les deux stylets pour pouvoir simuler un tambour. Et c'est que par la suite que j'ai pu jouer au jeu avec le vrai tambour et des baguettes. Et du coup, il y a ce jeu-là, et il y a Beatmania 2DX. Ça, c'est vraiment mon jeu du... mon jeu du cœur, le jeu que je préfère jouer. C'est peut-être celui qui a un des gameplays le plus simple, mais c'est tellement... Il y a tellement de concepts, de petits concepts à apprendre dans ce jeu que je peux y passer des heures et je trouve toujours des trucs que je ne faisais pas avant à faire.
Il faut savoir que sur Beatmania 2DX, en fait, c'est un jeu de rythme où les touches sur lesquelles on appuie, ça joue des samples et ça joue la musique, en fait. Et donc, les niveaux les plus difficiles, il n'y a aucune musique et c'est vraiment la lecture et le fait d'appuyer sur les touches qui fait toute la musique. Donc tous les instruments vont être joués.
Pour le coup, ça doit être hyper galère. Mais du coup, justement, est-ce que ça s'éloigne pas un peu d'un jeu de rythme?
Bah, en fait, quand on commence...
Que le rythme, bah, je suppose que le rythme est donné en soi, mais...
Bah, en fait, l'idée, c'est que la musique, c'est par niveau de difficulté, et une musique a plusieurs niveaux de difficulté. Donc on va commencer par les niveaux faciles, où les samples sont joués directement, et on n'a pas besoin de les jouer. Et au fur et à mesure qu'on connaît la musique, et bon, on peut la jouer nous-mêmes. Et en fait, l'idée, c'est que bah, on a toujours des indicateurs sur l'écran qui nous disent « Ah bah, est-ce que t'es en rythme ou est-ce que t'es pas en rythme ?» Voilà quoi.
Alors, c'est par rapport à la question sur « Est-ce que ça ne... on perd pas le jeu de rythme ?» Alors, Abriel disait qu'on compose vraiment toute la musique. Souvent, on compose 95% de la musique. Il reste quand même une trame de fond qui va être peut-être le battement principal ou une partie de la musique qui sera plus étouffée, entre guillemets, ou même s'il y a le battement principal, mais sera genre...
Bah pour donner un exemple concret, pardon, quand on est sur les niveaux les plus difficiles, en général, on va jouer en même temps la partie donc, de percussion et la partie, la mélodie principale, qui, pour le coup, sera très compliquée et très rapide.
C'est ça. Et avoir ces jeux qu'on appelle des jeux key-soundés, du coup, parce que chaque touche a un son, ça, c'est un peu la marque de fabrique de Konami, j'ai l'impression...
Bah, c'est par répandu, DDR, oui, c'est un peu ça sur tous leurs jeux.
Et Sound Voltex aussi, ouais.
Non, Sound Voltex, c'est pas qui s'en est.
Oui, à part DDR et Sound Voltex.
Ah, Sound Voltex, ouais. Oui. Et c'est pareil sur Puppet Music, du coup, avec les 9 boutons, où les notes sont qui s'en est. Là, on a... quand je parlais tout à l'heure, un peu plus tôt, du fait qu'on ressent la musique que l'on joue, ça joue une très grosse partie à ça. Parce que là aussi, lorsque l'on joue mal, bah... c'est pas juste un indicateur sur l'écran,
c'est dissonant.
L'entend. On l'entend, on se dit ah, j'ai pas appuyé un rythme.
Et du coup, avec bah, tous ces contrôleurs différents, toutes ces différentes manières de jouer, est-ce qu'à un moment, ça perd vous perdez vraiment tout intérêt pour ce qui serait un jeu clavier ou manette pour un jeu de rythme? Est-ce que ça paraît vraiment hyper fade à côté?
Alors, ça dépend du jeu, en fait. Ça dépend vraiment du jeu. Comme je le disais au début, dans la définition d'un jeu de rythme, il y a le contrôleur, la disposition, enfin le gameplay à disposition, le contrôleur à disposition et la playlist. Il y a des jeux qui apportent vraiment, même avec une absence de contrôleur, qui apportent vraiment un petit renouveau, un petit truc différent. Je pense par exemple à un jeu de rythme qui est sorti récemment qui s'appelle Muse Dash, qui est extrêmement simple. C'est deux touches. C'est vraiment deux touches, il y a des trucs qui apparaissent en haut et en bas. Une touche correspond au bas, une touche correspond au haut. Mais la manière dont le jeu est présenté, la manière dont le jeu se joue, fait que ça reste fun. Ça reste très drôle et c'est intéressant, en fait. C'est pas juste une copie d'un autre jeu sans contrôleur. Okay. C'est un jeu original avec une playlist à elle, avec un gameplay qui est... enfin, une visualisation qui est différente. Voilà.
En ce qui me concerne, j'ai trouvé... y a quelques années un jeu qui se joue pour le coup avec la manette et que j'avais quand même énormément apprécié. Alors c'était une version plus récente, on va dire, c'est pas vraiment un remake, mais c'est un jeu avec sa propre playlist qui est adaptée d'un vieux jeu console sur PS2 à l'époque qui s'appelait Amplitude. Et donc ce jeu là donc la version récente est dispo sur PS4 sur le store online et s'appelle également Amplitude. Et donc la particularité de ce jeu là en plus de devoir évidemment jouer les notes, c'est qu'on choisit quel instrument de musique on veut jouer dans la partition. Donc on peut et le but, c'est justement de switcher d'instrument à instrument sans qu'il y ait de coupure et que ce soit donc du coup que ça aille ensemble. Et juste cette particularité là de pouvoir choisir, ça offre un élément qui est en dehors justement de la musique. On se cantonne pas justement à jouer la partition. Il faut choisir non seulement la bonne partition qui pourra continuer la musique sans qu'il y ait d'arrêt brusque, mais aussi un petit peu prévoir son chemin pour prendre peut-être quelque chose qui va donner plus de points ou quelque chose qui sera plus facile.
Ouais. Du coup, oui, avec l'arrivée des jeux comme Beat Saber ou autre et la VR, du coup, je sais pas ce que vous pensez de ça déjà. Est-ce que vous pensez que Beat Saber, ça peut être considéré comme un jeu de rythme? Et est-ce que vous pensez qu'avec la réalité virtuelle, il y a de bonnes possibilités d'évolution du jeu de rythme en soi?
Alors, j'ai testé Beat Saber et d'autres jeux de rythme en réalité virtuelle, et c'est vraiment très très bien. C'est clairement un jeu de rythme. Beat Saber, même si on a l'impression que parfois ça peut être un peu sloppy, un peu, ça reste un jeu de rythme parce que il y a la notion de direction, la notion de timing aussi, la notion de précision qui est comptée, et le jeu, il est vraiment vraiment très très fun. Je recommande d'y jouer si on a le moyen d'essayer au moins une fois. Et c'était quand j'étais à une salle. Alors, c'était une petite salle d'arcade, c'était à Nantes ou à Quimper, je ne me rappelle plus. Où, en fait, il y avait toute une salle de réalité virtuelle avec différentes activités, dont un jeu de rythme, où c'était genre un bateau viking, on a quatre tambours et ça arrive, ça défile. Et en fait, c'est comme si on avait quatre marteaux, et on doit taper sur les tambours pour battre le rythme de l'âme. Et c'était vraiment très très cool. C'est du coup, il y a un bon moyen de faire des choses intéressantes.
En ce qui me concerne, pour Beat Saber, moi c'est un jeu que j'aimerais énormément qu'on propose à l'asso, mais il y a un problème, c'est que tout le matériel nécessaire a un prix, et c'est un prix vraiment élevé, même comparé à ce qu'on a pour le reste de l'asso.
Adriel, t'as un avis sur la VR ?
Ouais, la VR, c'est... Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Il faut des petites idées et ça peut vite devenir très très fun. Hein.
Mais alors du coup, est-ce qu'avec l'expansion... Enfin, si on envisage l'expansion des jeux de rythme dans la VR et qu'on voit pousser à droite à gauche des salles d'arcade de VR, est-ce que justement l'aspect un peu peut-être désuet des salles d'arcade d'autres temps pourrait être remplacé par les salles d'arcade VR, et éventuellement voir l'essor de jeux de rythme et de compétition de jeux de rythme en VR?
Alors ça pourrait, mais comme je le disais plus tôt, il faut surtout que la mentalité change en fait. Maintenant la VR est accessible chez soi. Bon, c'est un prix un peu plus coûteux, mais c'est pas aussi coûteux qu'une borne d'arcade par exemple. On peut avoir un setup de Beat Saber avec juste un Oculus Quest ou un Oculus Rift assez facilement chez soi. Il suffit qu'on ait un bon PC et on a un setup Beat Saber. Alors que les jeux musicaux, c'est encore toujours un problème. Enfin, les jeux de rythme sur borne arcade, en fait, c'est encore un problème. Et le fait qu'on puisse avoir le setup chez soi fait que la salle d'arcade n'a pas le même intérêt. C'est plutôt l'intérêt de la personne qui n'a pas les moyens de s'acheter, qui se dit « Ah, j'ai pas envie d'en faire une partie, essayer au moins une fois », qui va faire sa partie, qui va faire « C'était cool !» et qui va rentrer chez lui après.
Après, c'est une question qu'il faudrait peut-être creuser, parce que si on se dit « Le setup est abordable », du coup, j'ai pas besoin d'aller dans une salle d'arcade. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'un joueur pro CS, il a son PC chez lui, il fait tourner son CS, mais voilà, il peut quand même aller faire une LAN, il peut aller faire... Si on arrive à trouver un média, ou en tout cas un support VR qui n'a pas besoin d'avoir un énorme setup, ou alors dans ce cas-là, trouver des moyens plus simples de transporter ces trucs-là, on pourrait quand même garder l'intérêt d'avoir des LAN Beat Saber ou des LAN un peu à la Ready Player One.
Pour moi, ça me choquerait pas, mais moi, ma question à ce moment-là, ça devient, est-ce qu'on a vraiment la player base qui pourrait permettre ce genre d'événement? Après, ça peut évoluer. Si la réalité virtuelle continue, si on continue à avoir des excellents jeux comme Beat Saber, il y a toutes les raisons de croire que ça pourrait évoluer. Mais pour l'instant, on peut pas vraiment faire autre chose que se poser des questions sur ça, quoi.
Et est-ce que, du coup, pour s'éloigner un peu des jeux musicaux, justement, est-ce que vous pensez qu'on peut... Est-ce qu'il y a déjà... Et est-ce qu'on peut faire des jeux musicaux sans... Des jeux de rythme sans musique? Est-ce que, genre, on pourrait imaginer un jeu de rythme pour sourds et malentendants, et à quoi ça pourrait ressembler?
C'est une bonne question. C'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question pour les sourds et malentendants. Ce serait du coup un jeu de rythme purement visuel, du coup. Ou alors un rythme basé sur les sensations, en fait. Plutôt quelque chose où, par exemple, il y a un truc qui fait une petite pulsion électrique, il y aura quelque chose comme ça. Ça pourrait être un concept intéressant.
Ouais. Bah, les sourds et malentendants, ils ressentent des sensations sonores la plupart du temps. Bon, pas tous, mais ils ressentent des sensations sonores. Par exemple, enfin, un peu comme nous, quand on est en face du boomer dans un festival, et on ressent les basses dans notre corps, et du coup, ça pourrait être un concept à creuser.
Oui, ça tombe bien, il y a bientôt une game jam.
Même sans forcément aller jusqu'ici, la Switch est dotée capteurs de vibrations qui sont extrêmement précis. Ça pourrait être utilisé à ces fins-là.
Et du coup, je sais pas si vous aurez d'autres choses à dire, mais la question finale pour moi, c'est qu'est-ce que ça serait pour vous le jeu de rythme idéal ?
Ah, pour moi, il n'y a pas vraiment de jeu de rythme idéal, mais en fait, déjà, un jeu de rythme qui me satisferait, il en existe déjà, c'est un jeu où à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours le smile, où je suis toujours content d'y revenir, et avec une playlist qui change tout le temps, qui change régulièrement avec des... Et étant accessible, ayant la difficulté, ayant tout ce qu'il faut en fait. Tout simplement.
Pour moi, le jeu idéal, il existe. Il s'appelle Beatmania 2DX.
Je ne suis pas d'accord, monsieur.
Et pour toi, justement, du coup, Abriel, puisque t'es pas d'accord.
Non, mais non, je suis totalement d'accord avec Cyclohexane. Beatmania 2DX, c'est vraiment très très bien. Mais je reste encore un petit peu trop fan de Soundvoltex pour partir et j'ai pas de Beatmania 2DX. Mais en fait, ces jeux, ils sont populaires au Japon, c'est pas pour rien, c'est que ils provoquent chez les joueurs vraiment une sensation de plaisir et d'amusement et la jouabilité est vraiment superbe. Et donc c'est ce qui fait que il y a autant de joueurs et que ça commence à avoir un avenir vraiment bien.
Juste pour pouvoir donner une petite précision sur la série des Beatmania 2DX, donc c'est une série qui a commencé au début des années 2000, donc le 2DX le plus récent est aujourd'hui, alors 2DX 27.
C'est 27 ?
Ouais, 28. Heroic Verse 27.
C'est vrai qu'il y en a eu 21 par an.
Ouais.
Il y en a un par an, ouais.
Oh la vache.
Au minimum.
Il y a eu certaines années où il y a eu plus d'un par an lors des débuts, ouais.
Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion. Voilà, c'est la fin de cette émission de Super Radio 64 sur Syllabe, qui était consacrée aux jeux vidéo de rythme. On était en compagnie de Sushi, Abriel et Cyclo de l'association Wookie Wookie. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu l'association ?
Alors, l'association Wookie Wookie est une association qui a pour but de promouvoir les jeux de rythme, ce qui explique notre présence ici. On est basé à Rennes, on essaie de couvrir des événements...
dans tout le Grand Ouest.
Dans tout le Grand Ouest, voilà. Souvent des conventions, des festivals de jeux vidéo, etc. Mais vous pouvez aussi nous retrouver à Rennes deux fois par mois, le premier lundi du mois et le troisième mardi du mois, pour le Club DDR, où on fait tourner trois jeux musicaux, DDR et deux autres jeux, en accès gratuit de 20h à minuit à la maison de quartier de Beauregard, le Cadran.
Ok. Où est-ce qu'on peut vous retrouver du coup ailleurs ?
Alors on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram. On peut même on a notre site web assowookiewookie.fr. Et on est même dispo sur Discord pour ceux qui passent trop de temps sur Internet.
Ok, on mettra tout ça dans la description. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous d'avoir écouté Super Radio 64. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @sr64syllabe, et sur Facebook. Merci encore d'avoir écouté, et à la prochaine fois sur Syllabe pour une nouvelle émission de Super Radio 64. Merci Milan.
Mais de rien.
Merci Pierre.
Toujours un plaisir.
Et encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Salut.